Il faut qu'on parle. Il faut que tu arrêtes d'être une psy gratuite pour tes potes, pour ton entourage, pour ta relation, pour ta famille et encore pire, pour des inconnus. Alors non seulement t'as pas un diplôme en psy, sauf preuve du contraire, donc tu n'es pas payé pour ton travail que tu effectues, et en plus, c'est aux autres de régler leur propre traumatisme. Tu n'es pas faite pour ça et une relation n'est pas faite pour aider à régler les traumatismes de l'autre. Et vous savez quoi? En plus, en faisant ça, vous aidez non seulement pas les autres, et évidemment, bah, ça a un impact négatif sur vous, parce qu'en fait, la plupart de ces personnes qui vous prennent justement pour ce thérapeute gratuit, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de trouver des solutions forcément, et qui ont juste envie de se plaindre. Ou parfois même, encore pire, qui se complaisent de leur situation et qui n'ont pas envie d'effectuer un vrai changement, ou alors de mettre en place des actions pour leur aider sur le long terme à trouver des solutions à leurs problèmes et à travailler sur leur traumatisme et à avancer. C'est un sujet dont j'ai grave parlé avec mes amis de façon assez régulière, mais en fait je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé sur mes réseaux et encore moins sur le podcast. Je me suis dit aujourd'hui, ça y est, genre c'est le jour, j'ai trop envie de parler de ce sujet-là, donc let's go. Alors moi je voulais un petit peu vous parler de ce sujet-là parce que j'ai été dans ce cas-là et je pense que c'est un peu le cas des personnes qui sont hyper empathiques. On pense en fait qu'on peut aider et un peu sauver tout le monde. Moi j'ai eu beaucoup ça dans mes relations amoureuses où je me suis rendu compte qu'il y avait un pattern un peu où j'attirais souvent des mecs et des relations avec des personnes qui avaient des traumatismes ou des choses qui n'étaient pas résolues, etc. Et en fait moi j'avais un peu ce truc du syndrome du sauveur, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais quand même vous lire un petit peu une définition de qu'est-ce que c'est exactement que le syndrome du sauveur. Alors la définition principale que j'ai trouvée, c'est « Le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui se traduit par une empathie excessive à l'égard des autres et une envie de les aider dans toutes les situations. Parfois qualifié de codépendance, ce trouble trouve son origine dans l'enfance. Le syndrome du sauveur, ou ce sacrifice permanent au bénéfice des autres, force parfois l'admiration de l'entourage. Cependant, même si le sauveur a des capacités altruistes, ce syndrome démontre le besoin de recevoir une gratitude permanente pour exister. » On parle alors de syndrome du sauveur lorsque ce besoin d'aider l'autre conditionne la relation. Bon, c'est une définition un peu longue pour expliquer brièvement ce que c'est, mais c'est clairement un trouble en fait qui est justement le résultat de souvent des traumatismes qu'on a qui puisent souvent leur origine dans l'enfance aussi. C'est souvent lié à la disparition d'un parent ou alors le membre d'un quelqu'un de votre famille qu'on n'a pas pu aider, qui a été touché par une dépression, une addiction ou des décès par exemple. Et en fait, c'est souvent lié à un manque d'amour lié à l'enfance et le sentiment de ne pas se savoir, enfin de pas avoir ressenti en fait assez d'amour quand on était plus jeune, et justement de devoir puiser cet amour en prenant soin des autres, parce qu'en prenant soin des autres on a l'impression que du coup ça va nous donner en fait de l'amour, alors qu'en vrai souvent on se retrouve plus vidé de notre énergie qu'avec une énergie d'amour en retour en fait. Du coup, comment ça se traduit un petit peu en général? Moi ce que j'ai remarqué, que c'est enfin un petit peu autour de moi et parmi les personnes qui ont un petit peu ce syndrome du sauveur que j'ai pu rencontrer dans ma vie, où moi je pense que j'ai pas eu ce truc là genre aussi prononcé que ça, parce que j'ai pas l'impression non plus d'avoir manqué d'amour etc. quand j'étais plus jeune ou autre, mais c'est vrai que j'ai eu des tendances syndrome du sauveur sans être vraiment dans le truc un peu extrême. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est justement ce truc de vouloir porter secours, etc., un peu dans toutes les situations, trouver des résolutions en fait aux problèmes des autres, être attiré justement par ce type de personnes qui sont un petit peu en souffrance, dépressives, etc., et justement d'être un petit peu l'ange gardien de ces personnes-là, si je peux dire. Et souvent, en fait, ça cache un peu un mal-être quand tu creuses vraiment le truc au fin fond. Ça creuse souvent une sensation un petit peu de mal-être chez la personne qui a justement cette tendance à avoir le syndrome du sauveur. Donc ça, je trouve que c'est un peu le cas extrême, mais moi, j'appelle plutôt le syndrome du sauveur le syndrome de la thérapie gratuite. Je trouve que c'est vraiment un truc qui représente bien, enfin qui illustre bien en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, clairement, ce qui va se passer concrètement, c'est que tu vas passer du temps avec ces personnes-là, ça peut être donc tes amis, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être ta relation amoureuse, ça peut être des gens que tu rencontres comme ça à une soirée, et au bout de 30 minutes, ils vont commencer à te raconter toute leur vie et tous leurs problèmes. Ça, c'est ma spécialité, je vous en parlerai juste après, mais j'ai ce don pour que les personnes me racontent leur traumatisme en moins de 30 minutes et tous mes proches sont témoins de ça, c'est un truc de fou. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi dans les milieux professionnels où d'un coup d'une relation professionnelle tu passes à une relation un peu intime où la personne va te raconter des trucs hyper personnels dans un contexte qui va être professionnel. Et en fait pourquoi j'appelle ça la thérapie gratuite, bah, tout simplement parce que tu donnes une compétence où là t'es pas forcément diplômé etc, mais une compétence, tu vas te démener pour trouver des solutions aux problèmes des gens, pour écouter les gens, avoir une empathie qui va être excessive, et en fait tu vas pas avoir une gratification pour le travail que tu donnes parce qu'en fait c'est pas ton métier d'être thérapeute. Et pour vous parler un petit peu donc de mon parcours à moi et comment je me suis associée un petit peu à ce truc de thérapie gratuite, donc moi comme je vous ai dit ça a commencé plutôt en amour, donc je pense que quasiment tous mes ex, quasiment tous ont eu des problèmes assez importants dans leur vie, que ce soit des traumatismes familiaux, des addictions, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais grave ce pattern en amour. Et c'était quelque chose que soit je percevais dès le début dans mes relations, c'est-à-dire que dès le début, je savais que le mec, il était un peu broke ou qu'il y avait des trucs, et pas broke dans le sens fauché, quoique j'ai déjà eu ça aussi, mais plutôt broke dans le sens cassé, donc qu'il y avait des blessures, etc. Franchement, dans mes ex-relations, bah, quasiment tous, je pense, à part peut-être une ou deux exceptions, ont eu des traumatismes ou des addictions, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de répéter ces schémas-là. Donc j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi j'avais ce truc-là, et pourquoi aussi j'avais souvent ce truc de où au final mes relations finissaient à j'en peux plus, donc j'arrête le truc, et c'est souvent moi qui arrête les relations parce que je me sens étouffée en fait dans ces relations là c'est souvent parce que justement j'étais confrontée avec des mecs qui étaient dans une recherche d'avoir quelqu'un justement pour les sauver, et moi j'avais plus envie d'endosser ce rôle parce que c'est un rôle qui non seulement est épuisant, hyper dur à porter, et en fait bah, au bout d'un moment tu t'en rends bien compte que la seule personne qui peut se sauver, c'est elle-même, et c'est elle quand elle décidera en fait de le faire. Donc moi ça c'est un petit peu mon expérience personnelle, mais j'ai remarqué plus récemment, donc là j'ai réussi un petit peu à sortir de ce pattern de justement attirer des relations avec des hommes qui justement recherchaient un peu quelqu'un pour les sauver, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai vachement ça dans les nouvelles relations que j'essaye parfois de construire ou autres. Cette année, autant l'année dernière et l'année d'avant, j'étais pas trop dans le délire d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Enfin, c'est-à-dire que je rencontrais souvent des nouvelles personnes avec mon travail, parce que c'est un peu quelque chose qui est hyper présent dans mon travail, les rencontres, les soirées, les événements, etc., où au final tu rencontres toujours des nouvelles personnes. Mais j'étais pas forcément dans l'optique de créer de nouvelles relations amicales, ou d'aller au-delà du côté forcément professionnel, etc. Et là, je sais pas, cette année, je suis vachement dans le truc de j'ai envie de rencontrer plein de monde et tout. Sauf que je suis confrontée à ce nouveau problème qui est que toutes les personnes que je rencontre, et c'est un truc de fou parce que j'en ai parlé justement à des amis avec qui je suis allée boire un verre la semaine dernière, je leur ai dit mais je comprends pas, genre pourquoi, en fait, au bout de 30 minutes, je rencontre quelqu'un, mais que ça soit à un bar, je sais pas, je vais avoir un bon délire avec une fille avec qui je vais rigoler ou avec un mec ou autre, et en fait, au bout de 30 minutes, la personne va me raconter qu'elle a perdu un parent quand elle était jeune, que là, elle est en train de faire un burn-out à son travail, qu'elle a le syndrome de Peter Pan, enfin, des trucs, mais vraiment genre intimes, que tu racontes pas à quelqu'un en fait au bout de 30 minutes quand tu l'as rencontré, sauf si tu viens sur un sujet qui fait que, et moi je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas l'impression d'aller sur des pentes de sujets etc, mais vraiment je vous jure c'est un délire à quel point les gens me racontent très très vite toute leur vie intime, et je parle pas forcément de sexualité mais je parle vraiment des trucs les plus intimes de leur vie, les plus gros traumas de leur vie, vraiment ils me racontent ça en 30 minutes top chrono, franchement c'est incroyable. Et ça, pour en avoir parlé suffisamment avec mes amis, ils m'ont dit, mais vraiment Claire, c'est abusé à quel point, genre les gens se confient à toi, et pourquoi en fait? Et moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Donc j'essaie un peu d'analyser le truc, le micmac de pourquoi les gens me racontent à ce point leur vie, et franchement, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas forcément envie d'être capturée, parce que malheureusement... Donc en analysant un peu la chose, je me suis dit qu'en fait, pourquoi ? Parce que je pense que j'écoute les gens sincèrement et avec beaucoup d'attention. Et ça, j'ai remarqué que c'était un truc qui était assez global. Je trouve que les gens n'écoutent pas forcément les autres quand ils parlent. Je trouve que souvent, quand t'es dans une conversation, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, franchement, dites-moi sur Insta, dans mes DM, envoyez-moi un petit DM, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le sujet ou pas. Mais je trouve que quand tu parles avec des gens, souvent en fait, ils vont très vite ramener le truc à ah oui, moi aussi, ah moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et en fait, ils vont pas t'écouter jusqu'au bout quand tu parles. Ils vont tout de suite te couper la parole pour associer un truc qui fait que eux aussi font ça, eux aussi, ils vont essayer de te montrer que bah. Ils se connectent à toi parce que eux aussi font ça dans leur vie. Et je pense que c'est un truc un peu normal, social, pour s'adapter à l'autre et créer des connexions, etc. Et je pense que c'est un peu un truc d'association qui font que du coup, bah, tu lis des liens parce que tu as des passions communes, parce que tu as le même type de comportement, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait assez naturel dans le jeu social des échanges. Mais finalement, je trouve que moi, c'est pas si positif de faire ça parce que j'ai l'impression que du coup, souvent, tu vois, tu parles d'un truc et t'es un peu coupé dans ton élan et t'as l'impression que les gens n'écoutent pas vraiment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou s'il y a que moi qui ai ce sentiment-là, mais dites-moi en tout cas. Donc oui, du coup, j'ai vraiment l'impression que quand on parle avec, avec des gens, on n'a pas vraiment cette vraie écoute empathique qu'on va chercher. Et souvent, les personnes en face te posent des questions un peu d'usage, sans être vraiment intéressée, à part si t'es en train de te faire draguer ou s'il y a une vraie connexion avec quelqu'un. Mais trois quarts des échanges que tu vas avoir, je trouve, quand tu rencontres quelqu'un, vont être très en surface. Par exemple, ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, trop bien, tu bosses où? Ok. Tu sors où en général? Et c'est quoi tes passions? Des trucs comme ça, mais les gens vont écouter sans vraiment écouter. Et je pense que, en vrai, je pense que c'est une qualité, mais j'ai l'impression, moi, d'avoir vraiment une vraie écoute. Enfin, quand les gens m'intéressent, tu peux me parler du truc qui va le moins intéresser, comme, je sais pas, mettons, tu fais du triangle comme un instrument de musique, ou alors, je sais pas, tu fais un sport qui m'intéresse pas du tout. Bah, en fait, si je vois que la personne en face de moi, elle est hyper passionnée et tout, bah, je vous jure que je peux m'intéresser à n'importe quel sujet et être vraiment intéressée et vraiment pouvoir écouter la personne me parler des heures de sa passion. Genre, je sais pas, t'es fan de... mettons un truc qui m'intéresse pas trop. L'entomologie, par exemple. C'est, vous savez, ceux qui font des trucs avec les insectes et tout. Genre des tableaux avec des insectes et tout. Je dis ça parce que moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui font des trucs comme ça. Donc bref, l'exemple, moi, qui m'intéresse pas spécialement, mais si je vois que la personne va être vraiment passionnée, bah franchement, même ça, genre, ça peut m'intéresser. Et j'ai l'impression que c'est assez rare, enfin en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes, moi, quand je rencontre et tout, qui ont ce truc. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Donc je pense que moi, c'est ce que j'ai remarqué, que c'est un peu le truc qui fait que peut-être les gens se confient facilement, c'est que forcément, bah, vu que t'écoutes vraiment... bah du coup les gens se disent bah la personne s'intéresse vraiment à moi, genre je peux aller plus loin dans la discussion, etc. En tout cas moi c'est les retours que m'ont fait mes amis quand je leur parlais de ce sujet là, de genre pourquoi les gens se confient à ce point à moi. Et en fait sur le papier ça me dérange pas, je trouve pas ça problématique, genre ça me dérange pas, juste forcément j'ai une montagne de secrets sur tout le monde de mon entourage, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire qu'en plus, en général, je suis une tombe, donc je dis pas les choses qu'on me confie, à part si vraiment, genre là, c'est un inconnu que je vais jamais revoir et que j'ai une de mes meilleures amies à côté et je vais dire, qu'est-ce qu'il va raconter et tout. Mais franchement, sinon, en général, je confie pas à d'autres personnes les choses qu'on m'a confiées. Donc je pense que ça, c'est aussi apprécié. Là où pour moi, ça tourne dans un truc problématique, c'est quand cette relation switch de t'as une personne qui s'accroche à toi un peu comme une tique qui va rentrer dans ta peau, tu vois, et qui va pas te lâcher, et en fait t'es obligé de prendre une pince à tique pour t'en débarrasser, et encore t'as, à tout moment tu chopes la maladie de Lyme, je crois, ouais, la maladie de Lyme, je sais pas si vous voyez les... parfois j'ai l'impression d'avoir des, je vous jure, j'ai des images, mais je sais pas si vous arrivez à suivre, j'espère que vous arrivez à suivre, bref. Donc franchement, j'ai l'impression parfois d'avoir ce truc de tic qui s'accroche à ma peau. Et là où j'ai l'impression que la relation switch de genre quelqu'un qui te raconte des choses intimes sur sa vie à quelqu'un qui devient un tic sur ta peau, c'est quand cette personne en fait est oppressante. Et franchement, je vous jure, récemment j'ai eu ce truc de personne oppressante dans ma vie. Et j'en ai beaucoup, beaucoup parlé, surtout avec deux de mes amis qui ont un peu cette même tendance comme moi. Je pense qu'on a les amis qui nous ressemblent. Moi, mes amis sont des personnes qui sont en général très empathiques, très sensibles, très à l'écoute, etc. Donc, je suis pas la seule, et ça, c'est cool à avoir ce problème-là. Enfin, c'est cool. En tout cas, on peut en parler, mais j'espère aussi que mes amis vont réussir à se sortir de cette situation. Et récemment, je leur disais, mais vraiment, j'en peux plus, en fait, d'avoir des vocaux de personnes qui me racontent tous leurs problèmes, d'avoir des messages à pas d'heure, en mode à 3h du matin, quelqu'un qui crie à l'aide, qui t'envoie un appel à l'aide, alors qu'au final, la personne, tu la connais à peine. En fait, c'est un peu dur, peut-être, ce que je vais dire au niveau de mes paroles et tout, et ça fait très égoïste, mais en fait, je n'ai pas envie d'être la sauveuse de tout et n'importe qui, et en fait d'être la personne qu'on appelle à l'aide, et que moi, quand j'ai des problèmes, bah qui est là en fait, et est-ce que ces personnes-là sont là? Non, concrètement non, et ce sont pas des personnes qui s'intéressent foncièrement à moi, ce sont pas des personnes qui vont être là pour moi quand j'en avoir besoin, ce sont pas les personnes non plus que je vais avoir envie d'avoir, enfin d'appeler quand j'en ai besoin. Moi, j'ai mon cercle d'amis solide, je suis pas quelqu'un qui crie à l'aide quand il y a un problème, mais c'est vrai que je peux solliciter mes amis si ça va vraiment pas. Et je sais sur qui je vais compter, et dans tous les cas, je vais pas compter sur ces personnes-là que je connais depuis un mois, depuis une soirée, ou depuis 3 semaines, ou depuis même 6 mois. Moi, j'ai des personnes qui sont solides dans mon entourage, en qui j'ai confiance aveuglément, et j'ai pas crié à l'aide avec ces personnes-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là, c'est triste, mais sont souvent très seules et pas accompagnées. Mais finalement, il y a une cause à effet. Comme ce sont des personnes qui s'accrochent à toi et qui te sursollicitent avec leurs problèmes, en fait, elles ne sont pas capables d'avoir la maturité émotionnelle pour créer des vraies relations, et des relations où, en fait, elles vont pas être... Enfin, où le boomerang va se renvoyer d'un côté et de l'autre. Elles vont juste t'envoyer le boomerang à la gueule, et toi, tu prends le truc en mode « Ok, j'en peux plus, en fait. Là, je sature. J'ai des bleus partout à cause du boomerang. Enfin, juste, on arrête, et moi, je joue plus au boomerang avec toi, ça m'intéresse plus. » Je sens que c'est un sujet qui m'anime, mais je vous jure, franchement... ce truc des gens comme ça oppressants, il faut vraiment que vous réussissiez à vous en débarrasser. Et moi, je commence là vraiment à réussir à totalement m'en débarrasser de ces gens-là. Et je vais vous expliquer comment moi je fais, un petit peu les solutions que j'ai remarquées qui marchaient, parce que je pense que on peut travailler sur soi. Par exemple, quand on a le syndrome du sauveur et que c'est vraiment puissant, et que là, on est sur un truc... où vraiment il y a un vrai traumatisme, etc. Je pense que là, c'est important d'avoir un suivi psychologique, justement, avec une vraie psychologue qui va nous accompagner à comprendre d'où ça vient, etc. Moi, je pense que j'en suis pas à là du tout. En plus, j'ai travaillé sur pas mal de choses déjà sur lesquelles je devais travailler. Moi, c'est juste un restant de ce truc-là. Mais voilà, on n'est pas sur un truc où je serais... de là aller en parler avec une psychologue ou à travailler vraiment là-dessus. Je pense que c'est vraiment juste le concept de poser des barrières et mettre des limites avec ces personnes-là, en fait, qu'il faut vraiment travailler. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai réussi à ne plus être une psy gratuite, déjà je pense qu'il faut en avoir conscience, c'est le truc le plus important. Je pense qu'il faut avoir conscience de là, en fait, on est sur une relation qui n'est pas équilibrée, en mode tous les matins. Alors j'essaie de vous faire un peu des scénarios pour que vous puissiez essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être une relation déséquilibrée. Ça peut être cette pote qui t'envoie 40 000 vocaux de ses problèmes. Alors oui, ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, mais si c'est quotidien, en fait, stop quoi. Quelqu'un que j'appelle avec mes amis les tamalous, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode. Les tamalous, c'est les gens qui tamalou, donc les gens qui se plaignent d'avoir mal toujours quelque part, qui sont tout le temps dans la plainte, donc tous les jours ma vie est nulle, mais en fait qui ne trouvent jamais de solution ou qui n'essaient jamais au moins d'avoir cette lueur d'espoir de ok, bah là peut-être que je suis vraiment au fond du gouffre, va peut-être falloir que je me fasse aider, donc qui ont vraiment cette envie de s'en sortir, et au final toi t'apportes que des trucs négatifs au quotidien. Franchement, je vous jure, il y en a plein, et ça peut être, ce qui est horrible, c'est que ça peut être très bien ta mère, comme quelqu'un que tu connais à peine, comme... je sais pas, ton collègue de travail, où dès qu'il arrive, il passe ses journées à se plaindre, à te raconter tous ses problèmes, etc., de cœur, machin, où t'as pas envie, en fait, d'être intégré là-dedans. Bah, tout ça, en fait, ça fait que tu es une psy gratuite, et il faut arrêter ce truc-là. Donc, première étape, en avoir conscience. Deuxième étape, poser les limites. Et ça, pour moi, ce qui est le plus compliqué, ça va être de le faire de façon intelligente. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit tu le fais brusquement, et à ce moment-là, si tu le fais brusquement, ça peut être avec justement un inconnu ou une inconnue quand je dis inconnu, inconnu, c'est quelqu'un que justement t'as rencontré à une soirée, t'as eu un bon feeling, et en fait la personne commence à te raconter toute sa life et t'as plus envie. Ça, c'est des relations qui pour moi sont plus faciles à couper, parce que c'est des relations qui sont pas longues, t'as pas d'attache, tu t'en fiches un peu, et au final, bon, bah ça peut faire un peu de la peine, etc. Mais voilà, tu perds pas grand chose et c'est pas quelqu'un de ta famille ou une amie de longue date. Donc je pense que ça, dans ces cas-là, parfois c'est mieux de couper totalement la conversation et l'attache avec la personne si tu sens que bah en fait la personne est vraiment trop instable et tu te sens pas les épaules ni l'envie de gérer ça. Et en fait c'est pas toi de gérer ça et tu sens qu'en fait la personne va pas t'apporter grand chose en termes de, je sais pas, good vibes, etc. Donc je pense que là, dans ces cas-là, il vaut mieux parfois couper les relations trop tôt, peut-être, mais voilà. Je pense que parfois, c'est important de savoir couper des relations. Et là, dans ces cas-là, moi, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais. Après, on a le cas où on est dans des relations qu'on ne peut pas couper, comme par exemple avec des membres de notre famille. Bah là, je parlais de votre mère, par exemple, tout à l'heure. Ou alors, par exemple, un collègue de taf, tu es dans ton taf, tu ne peux pas quitter ton taf, tu ne peux pas changer de bureau, tu ne peux pas changer d'équipe. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Une amie qui est ta meilleure amie depuis 15 ans et au final ta relation a changé parce que là ça fait 6 mois qu'elle est pas bien et qu'elle est au bout de sa vie et en fait ça devient oppressant pour toi à un point où en fait la personne te sursollicite. Alors moi dans ces cas-là ce que je vous conseille de faire c'est apprendre à poser des limites de façon progressive. Ça peut être par exemple quelqu'un que t'as envie de garder dans ton entourage qui va te contacter d'un coup, qui va te dire écoute ça va vraiment pas... je m'en sors plus, j'arrive vraiment plus à rien faire, etc. Là, ce que tu peux faire, c'est réorienter la personne. Par exemple, bah écoute, moi, je peux te donner des conseils, etc. Mais en fait, là, t'as besoin d'un suivi, t'as besoin d'aide, etc. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu réorientes la personne vers quelqu'un de professionnel et compétent, dont c'est le métier, pour l'aider. Donc proposer la personne d'aller voir une psy, etc. Si t'as un contact d'une psy, bah écoute, je peux t'envoyer un contact, peut-être tu peux te diriger vers ça. Tu vois, tu donnes un conseil, mais en fait, tu t'éloignes des problèmes de la personne et tu délègues, parce que c'est pas à toi de gérer ça. Ça peut être aussi de poser des limites en n'étant pas tout le temps disponible pour la personne. Par exemple, si t'as l'habitude de répondre aux vocaux de la personne qui se plaint tous les jours depuis 6 mois... de ton entourage, de sa vie, etc. Et toi, t'as l'habitude de lui répondre au taquet, en mode dans les 10 minutes, elle a des réponses. Non mais t'inquiète pas, ça va aller, regarde, tu peux faire ça, gna gna gna, machin, etc. Tu l'aides tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu vois qu'il n'y a rien qui change, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais depuis des mois. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à répondre moins souvent. Tu vas poser des limites de temps. Tu vas laisser le temps s'écouler. C'est-à-dire que si la personne, tu lui réponds en 1 heure, bah là, tu vas lui répondre en 7 heures. Et même si la personne te harcèle et te dit est-ce que t'es là, gna gna, est-ce que t'es là pour moi, est-ce que t'es dispo, non là je suis pas disponible, désolée je suis en train de travailler, gna gna, même pas désolée hein, d'ailleurs forcément j'étais en rush au travail, je sais pas, tu trouves des disquettes ou j'en sais rien, mais tu poses de la limite de temps et ça c'est super important. Et ensuite au niveau des limites, tu peux aussi poser de la limite en physique, c'est-à-dire voir moins la personne, parce que si tu vois moins la personne, bah tu vas être moins déchargé en énergie négative. Donc franchement, poser des limites physiques aussi c'est bien, parce que ça va te permettre de te reconnecter à toi et de poser ces limites-là en fait. Et je pense que c'est hyper important et pour moi c'est vraiment les trucs le plus important quand t'es face à des relations dont tu peux pas te couper. Tu peux ne pas te couper, mais tu peux quand même maintenir ton espace à toi et avoir de la place pour respirer et pour vivre ta propre vie. Et maintenant, je sais ce que vous allez vous dire dans votre tête, c'est « mais là, je vais passer pour une grosse égoïste ». En fait, c'est hyper égoïste qu'elle est en train de nous dire, Claire. En mode « t'as quelqu'un qui va mal de ton entourage, bah vas-y, reste dans ta merde et je m'occupe pas de toi, je suis pas ta psy, etc. » Non, c'est pas ça que je dis, franchement. Mais je pense que vraiment, il faut que vous arriviez à capter, en fait, la limite fragile entre être présent pour ses proches, être là quand ils en ont besoin et être sursollicité, être pressé comme un citron et étouffé dans cette relation. Je pense qu'il faut vraiment réussir à capter. Moi, je suis la première que tu peux appeler à 3h du matin si t'es une de mes meilleures potes pour que je vienne t'aider ou te consoler si tu viens de te faire plaquer ou j'en sais rien. Franchement, moi, je suis vraiment la première présente pour ça. Mais voilà, si ça fait 7 mois que je t'entends dire les mêmes choses, que je te propose 10 000 solutions, que je suis là pour toi, que je te dis tout le jour les mêmes choses, que je suis en boucle à te dire les mêmes choses, en fait, au bout d'un moment, stop, quoi. Et c'est là où vraiment il faut que tu captes la limite entre les deux. Et que justement, tu ajustes ton comportement pour pas tomber dans la free therapist et genre le truc de la psy gratuite. Et là, vraiment, il faut que tu gardes cette image-là. Est-ce que je suis une psy gratuite? Quand il y a quelque chose qui te pose problème, de toute façon, c'est une question de ressenti en vrai. Quand ça te dérange pas, bah tu vas le sentir. Et quand ça va t'oppresser, que ça va commencer à être trop présent, tu vas aussi le sentir toi-même. Donc je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de tes ressentis par rapport à tes relations et capter le moment où bah là c'est trop et en fait je suis en train de tomber dans le truc de la psy gratuite où là bah c'est ok et ça me dérange pas et je peux être là pour elle ou pour lui. Et enfin, je pense que c'est important de préciser que y a des choses qu'il faut savoir déléguer à des personnes qui sont compétentes. Je pense notamment à tout ce qui est addiction, les troubles psychologiques, la dépression, les choses comme ça. Ce sont des choses qui doivent être gérées par d'autres personnes et c'est pas aux proches de devoir gérer les traumatismes et les difficultés psychologiques auxquelles font face les personnes. Je pense que les proches ont leur rôle évidemment à jouer, de soutien, etc. Mais voilà, il y a des moments où il faut savoir en fait déléguer et je pense que ça va de la responsabilité de chaque personne aussi de savoir bah là, ok, j'ai vraiment besoin d'aide. Moi, la première, hein, j'ai déjà consulté chez des psys quand j'en avais besoin pour diverses problématiques dans ma vie que j'ai pu rencontrer ou des choses que j'avais envie de régler où je me suis dit bon bah là, ok, bah je vais pas solliciter mes proches ou même moi, bah j'arrive pas à trouver les réponses en moi-même ou j'arrive pas à régler ça moi-même. Par exemple, pour un problème de crise d'angoisse ou des choses comme ça. Et je pense que là, y a des moments en fait, où il faut accepter de déléguer les problèmes avec d'autres personnes et de prendre soin de sa santé mentale, c'est hyper important. Et je pense que c'est un poste de dépense dans lequel il faut savoir prioriser parfois ses dépenses et son argent quand on en a les moyens, évidemment, parce que je sais que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y a pas mal d'accompagnements qu'on peut avoir qui sont remboursés. Je ne me suis pas super renseignée là-dessus, mais je sais que maintenant, il y a des augmentations de remboursement sur les prises en charge psychologue, etc. Donc, je pense que voilà. N'hésitez pas aussi à réorienter vos proches et les personnes qui vous sursollicitent comme ça, en bienveillance, évidemment. Mais voilà. Franchement, je pense que c'est hyper important. Et n'oubliez pas, vraiment, je vous jure, ne soyez pas les psys gratuites. Tout travail mérite salaire et au moment où ça devient un travail à plein temps, en fait, désolé, mais soit vous faites une formation de psychologue et à ce moment-là, vous devenez vraiment psychologue et vous faites payer pour ça ou alors vous arrêtez tout de suite. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura aidé pour cette thématique-là. N'hésitez pas à me faire vos retours par DM, genre qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que vous trouvez que vous avez déjà été un petit peu dans cette situation-là? Franchement, j'aimerais trop avoir vos retours sur le sujet. Et aussi, je pense que je vais commencer à vous mettre un peu des ressources en story Instagram avec des petits conseils en plus sur les sujets dont j'évoque en fait dans mes épisodes. Par exemple, vous mettre un peu des petits schémas ou des petits textes que j'ai pu lire sur le sujet qui sont intéressants et qui complètent un peu. Je vous mettrai tout en story à la une podcast, comme ça vous retrouverez tout au même endroit. Et si jamais vous voulez me suivre, du coup, c'est Claire Latour sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube Shorts, Snapchat, Spotlight, etc. Je suis partout, donc franchement, n'hésitez pas à me suivre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit avis 5 étoiles. Je sais que vous l'entendez dans tous les podcasts, mais c'est vraiment ça qui aide à faire connaître le podcast. Et ça serait hyper cool de mettre un petit commentaire en plus si jamais vous avez 10 secondes en plus à m'accorder. En tout cas, je fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao !